Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission littéraire aujourd'hui sur l'antenne de Radion. C'est en effet Wagon Livre jusqu'à midi, une émission que nous allons consacrer à une trilogie en bande dessinée avec leurs deux auteurs que je vous présente sans tarder. Je commence d'abord par l'illustrateur Ilker Caliscan. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Alors Ilker Caliscan, vous êtes l'illustrateur de ces trois BD et à vos côtés, votre camarade et collègue Jean-Charles Gibault a assuré le scénario. Il est le scénariste et l'auteur des textes. Bonjour cher Jean-Charles Gibault.
Bonjour Yannick.
Content de vous retrouver. Nos auditeurs vous connaissent un peu puisque chaque année nous rendons hommage aux combattants de la guerre 14-18 par une émission très didactique et grâce à vous on revit les grands moments et les temps forts de cette première guerre mondiale. Et puis début mai dernier, très aimablement, vous êtes venu devant notre micro pour évoquer la figure de l'empereur Napoléon dont on commémore cette année le 200e anniversaire de la mort. Et vous êtes aussi enseignant, professeur d'histoire, tandis que votre camarade Ilker Caliscan est également enseignant, mais enseignant d'anglais. Et vous êtes tous les deux en poste au Collège des Chaumes à Avallon. Alors je suis très heureux de vous retrouver parce que la première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était dans un charmant petit salon du livre dans la Nièvre. Nous étions à Saint-André en Morvan et là alors j'avais découvert le tome 1 de votre bande dessinée qui a pour titre Windicta. Et puis finalement nous sommes en juin 2021, les trois bandes dessinées sont désormais disponible à la fois sur le site de la maison d'édition Yin, on en trouve aussi chez nos libraires de Lyon et peut-être dans d'autres points de vente de Bourgogne, on y reviendra avec vous. Windicta, donc tome 1, Vae Victis, tome 2, Le vol noir du corbeau, et tome 3 qui est sorti courant mars-avril, c'est cela ?
C'est ça, au mois de mars.
Le dernier tome, ça y est, la trilogie est close, Les Ides de Mars. Tout d'abord, en entrée en matière, Ilker Caliscan, Jean-Charles Gibault, je vais demander à Ilker, comment vous êtes-vous rencontrés l'un et l'autre ?
Eh bien, tout simplement, au Collège des Chaumes, le jour où j'ai été muté là-bas. Jean-Charles y était depuis un an déjà, et puis ça s'est fait naturellement à la réunion, à la grande réunion.
Alors,
de début d'année.
Début d'année, d'accord, on rencontre un collègue, mais enfin, Jean-Charles Gibault est professeur d'histoire. Vous enseignez une langue vivante qui est l'anglais. Et il y avait forcément un terrain commun à une amitié, à une grande complicité, et une complicité qui débouche aussi sur la création de ces trois bandes dessinées.
Bien, en fait, juste avant d'arriver au collège, j'avais fait deux années au lycée. Et pendant ces deux années, j'avais fait une exposition de dessin au CDI. Et aussi surtout à la cantine, et Jean-Charles les avait vus, et au moment où on s'est rencontrés, il m'en a parlé tout de suite, et puis on a trouvé ce terrain commun, notre amour pour la bande dessinée.
Alors Jean-Charles a l'amour de la bande dessinée, tout comme vous. Oui. Vous-même vous êtes dessinateur,
oui.
Vous dessinez beaucoup depuis votre très jeune âge.
Oh, depuis l'âge de 4 ans, comme beaucoup d'enfants, sauf que moi je n'ai jamais arrêté.
Et est-ce que vous caricaturiez vos enseignants lorsque vous étiez élève ?
Pas trop, mais je l'ai fait qu'une fois en terminale, j'ai caricaturé justement mon professeur d'anglais et je me suis fait attraper. Et ça m'a beaucoup touché parce que le professeur, au lieu de me disputer, il m'a félicité et je lui ai offert le dessin.
Bon.
C'était un bon souvenir.
Alors, quels sont, je vais donner la parole à Jean-Charles, mais qu'il ne se sente pas délaissé en ce début d'émission.
Pas du tout, au contraire. Les souvenirs reviennent avec l'explication d'Ilker.
Alors, Ilker, la bande dessinée, c'est c'est un art que vous pratiquez désormais. Est-ce que vous aviez déjà fait une bande dessinée dans un autre contexte ou de manière plus modeste?
Bien sûr, en fait. J'ai toujours créé des petits scénarios dans lesquels j'étais le héros quand j'étais petit. En fait, je prolongeais un peu mes vacances d'été, je retournais vers les chevaux, etc. Parce que le reste du temps, j'ai grandi en ville. Donc loin de tout ce qui est nature et campagne, j'ai toujours été fan de cela. Et j'ai créé une bande dessinée, je crois que j'ai commencé en 2008, une bande dessinée d'une cinquantaine, soixantaine de pages, que je n'ai jamais publiée parce qu'il s'agissait du premier épisode d'une très très longue série, un petit peu dans le fantastique, toujours dans la nature, toujours avec les chevaux, et ça se situait plutôt en Asie centrale.
Et vous, Jean-Charles, alors bien sûr, passionné d'histoire, ça, ah oui, nous ça, le savons et nous l'entendons, et nous en bénéficions d'ailleurs grandement. Jean-Charles, la bande dessinée, et pas que la bande dessinée historique, finalement.
Non, de manière globale, la bande dessinée, mais évidemment toujours l'histoire, bien sûr, au rendez-vous. J'ai découvert, comme l'a dit Ilker, les dessins, les tableaux qu'il avait réalisés, avec lui aussi d'ailleurs une passion pour l'histoire. Il ne l'a pas dit, mais c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup. On le ressent d'ailleurs dans ses œuvres souvent. Et c'est vrai que de fil en aiguille, les conversations nous ont amené vers l'idée de pourquoi pas d'abord réaliser un projet autour de la bande dessinée.
Avec les élèves.
Un projet scolaire, voilà. Oui. Et ensuite, une fois ce projet lancé, on s'est pris au jeu. Les élèves nous ont demandé est-ce que vous pourriez aussi réaliser quelque chose. Et c'est le point de départ de tout ça, en fait, de l'histoire, de notre parcours bande dessinée.
Vous avez animé aussi un club BD au sein du collège des Chaumes à Vallon.
De mémoire, 3 ou 4 années de suite. Oui, oui. Et ça a plutôt bien marché. Puis au bout d'un moment, on a changé, on a fait autre chose. Mais effectivement, tout a commencé là.
Donc finalement, on pourrait dire que ce sont les élèves qui vous ont un petit peu mis sur la voie de ce projet en commun.
C'est grâce à eux, effectivement.
Les 3 premières pages du premier tome, on les a réalisées comme exemple pour les élèves.
D'accord. Voilà. Alors, les 3 bandes dessinées que j'ai là sous les yeux, et j'invite nos auditrices et auditeurs, notamment à se rendre sur le site de la maison d'édition Yale pour découvrir les couvertures. D'ailleurs, j'y suis encore allé ce matin avant notre émission. Il y a quelques vignettes, quelques dessins qui sont effectivement mis en ligne sur le site Yale. Hein, c'est Y-I-L. Alors finalement, vous partez sur le choix de faire une bande dessinée, mais est-ce que tout de suite, le sujet retenu, c'était un sujet historique ou est-ce que vous étiez parti sur une bande dessinée plus fantaisiste? Où vous étiez parti sur une bande dessinée à caractère didactique qui devait transmettre un savoir, peut-être pas forcément historique au départ, je sais pas.
J'avoue quand même que j'étais un petit peu là de ce point de vue-là. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Ilker aime beaucoup l'histoire, donc c'était pas une difficulté pour lui, au contraire. Après, l'objectif était multiple. Il y avait le côté didactique, bien sûr. On s'adresse à des élèves toute la journée, donc c'est vrai qu'on a aussi envie de transmettre, de mon côté, l'histoire, toujours la transmission, par le biais de la bande dessinée, et évidemment s'inscrire aussi dans la région, dans le patrimoine régional. Voilà, c'était important d'accord. pour nous aussi de mettre en avant, mettre en valeur des épisodes de notre histoire, à la fois régional, mais qui ont un retentissement aussi parfois national.
Chronologiquement, le tome 1, Vae Victis de Vindicta, est sorti l'année où nous nous sommes rencontrés, 2019 ?
L'année précédente.
En 2018.
Oui, c'était février 2018.
Oui. Ensuite, le tome 2, Le vol noir du corbeau, est sorti.
Ça doit être mois d'août 2019.
Et puis le tout dernier, le tome 3, est sorti cette année, mars-avril de cette année 2021. Alors, effectivement, il s'agissait de trouver des terrains communs, l'histoire de la Bourgogne, et finalement, très rapidement, vous partez sur Alésia, nos ancêtres les Gaulois, Alésia, qui se trouve, donc dont le site se situe en Côte d'Or, hein, rappelons-le, Alise-Sainte-Reine, quand bien même il y a débat sur le lieu, mais on y reviendra en cours d'émission avec Jean-Charles Gibault. Jean-Charles.
Alors, il y a eu plusieurs éléments qui ont attiré notre attention sur Alésia. D'abord, on a eu la chance de découvrir le musée parc ensemble avec Ilker.
Oui. C'est une superbe création, il faut reconnaître que c'est magnifique. Ça date de 2012, je crois.
J'avais fait une sortie scolaire déjà par le passé, mais j'ai eu la chance de le découvrir avec Ilker vraiment dans le détail. On a assisté aussi aux reconstitutions. Enfin, c'était vraiment un moment intéressant et ça nous a donné envie, ce moment-là, cette visite particulièrement, de développer cela. Mais l'objectif, c'était aussi de mettre en avant quelque chose qui n'était pas forcément très connu de la part des amateurs d'histoire, c'est surtout l'armée de secours. ce qui se passe à Alésia, on le connaît, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé. Mais cette constitution d'armée de secours qui vient en très grand nombre pour essayer de sauver les Gaulois dans Alésia, c'est quelque chose dont on n'a pas énormément traité en bande dessinée. Donc on s'est tourné vers cet épisode-là.
Alors, Ilker Caliscan, enchanté par l'idée de se lancer dans l'aventure du dessin, de l'antiquité, des Gaulois, des chevaux gaulois, romains, germaniques, tout ce que l'on veut, italiens, bien sûr.
Complètement. Quand j'ai su qu'il allait y avoir des milliers de chevaux, j'ai tout de suite dit oui. Et puis aussi, cette idée de l'histoire est tellement loin par rapport à nous que ça nous laissait une petite liberté sur certaines choses. Puis je sais qu'aussi... J'avais l'occasion de dessiner la nature beaucoup, et ça c'est vraiment un trait, c'est quelque chose qui me tient à cœur beaucoup.
Il y a beaucoup d'animaux, des insectes, voilà, des petites souris, exactement. Des chats, des chiens, des sangliers.
Alors comme j'ai fait des études d'anglais, on avait vu avec Shakespeare la pièce dans la pièce, et de temps en temps il y a des petites scènes d'animaux qui montrent ce qui va arriver dans la scène suivante par exemple, oui. Ou qui résument une scène précédente, oui.
C'est très surprenant d'ailleurs, ouais. Je l'ai remarqué dans chacun des tomes, peut-être plus dans les deux premiers, oui. Que dans le troisième, fait, mais il y a de temps en temps une petite vignette qui représente des rats en train de grignoter, ou alors des papillons aussi, ce qui permet de voir, oui. De mesurer le temps qui s'écoule, c'est aussi une façon de faire comprendre que le temps passe,
c'est ça.
Et la fragilité, le côté éphémère de l'existence.
Exactement, l'évolution d'un homme, les changements aussi.
Oh, c'est très mignon en plus, il y a un décalage entre cette virilité, exactement. Ce sang, ces hommes avec des glaives, et puis ces petits papillons comme ça qui passent devant. C'était très...
Un peu de finesse dans un
monde
de brutes.
Oui. Il y a un petit côté un peu taquin, j'allais dire taquin de superbe, jeu de mots un peu facile.
Jeu de mots latiniste.
Absolument. D'ailleurs, parlons, puisque vous êtes, oui. Tous les deux enseignants.
Oui.
Y a-t-il encore des classes de latin? Non, mais ma question est un peu naïve. Y a-t-il encore des classes de latin au Collège des Chaumes à Avallon?
Bien sûr. Oui, tout à fait.
Des quatrièmes, des troisièmes,
Oui, en cinquième
aussi.
Bien sûr.
Ça commence en cinquième. Oui.
C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le programme de sixième étant très centré sur l'Antiquité, les profs d'histoire essaient de trouver un intérêt particulier aussi pour motiver les futurs latinistes qui vont découvrir en cinquième.
Alors, je ne sais pas si vous partagerez mon point de vue, mais... En tant qu'ancien professeur de lettres, j'ai toujours considéré que l'enseignement du latin aurait ou devrait être obligatoire en France. Je ne dis pas à grosse dose, mais que c'est aussi renouer avec l'histoire de la langue et aussi une civilisation. Parce que souvent, l'enseignement du latin était jugé un petit peu, c'était les classes bourgeoises qui faisaient du latin. Le latin était regardé comme effectivement élitiste et évoquait aussi la civilisation romaine qui était jugée quand même parfois très très loin de nos préoccupations, alors que je pense, Jean-Charles, qu'une grande partie de l'histoire de la France se rattache aussi à la Méditerranée, ne l'oublions pas, et donc au monde latin et l'influence des Romains sur notre histoire, puisque les Gaulois sont devenus quand même des Gallo-Romains par la suite. Et l'architecture, il y a des traces un peu partout.
Ah, l'apprentissage du latin est une richesse.
Oui.
Et la culture latine, elle est visible dans nos villes, dans nos cités, dans notre vocabulaire. Elle est présente quotidiennement partout. C'est une évidence.
Et puis, je salue aussi l'aspect didactique des bandes dessinées. Non seulement elles sont attrayantes, il y a ce parcours de Sertorix, ce jeune Gaulois, on va y revenir. Mais il y a un glossaire au début de chaque bande dessinée qui rappelle les termes de la culture. Bon, il y a certains, j'avoue, j'ai appris des choses, mais vous rappelez ce que sont les Éduins, vous rappelez où se trouve Bibrac, parce que bon, il n'y a peut-être pas que les Bourguignons qui vont lire cette bande dessinée. J'espère que les confrères d'anglais et d'histoire, géographie des collèges de France et de Navarre vont peut-être aussi aller découvrir. Vous avez des retours un peu ?
On l'espère également. Oui, c'est vrai. On a souvent des collègues qui nous sollicitent pour, si possible, venir les rencontrer des élèves. On a même des collègues de Français qui nous ont contactés depuis Nîmes, une ville justement où la culture latine est visible. Qui ont apprécié énormément la bande dessinée, qui l'ont travaillé en classe. On a été ravis dans un lycée nîmois, pardon. Donc ça, c'était quelque chose qui nous a beaucoup touchés.
Alors, on va marquer... une première étape musicale. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui avec les deux auteurs de la trilogie Windicta, qui est enfin complète. Ils en sont fiers, ils sont contents. Puis il y a d'autres projets, on en parlera sans doute en fin d'émission. C'est donc Ilker Caliscan qui est le dessinateur de Windicta, accessoirement ou essentiellement professeur d'anglais aussi à côté, ne l'oublions pas. Et puis Jean-Charles Gibault, qui est le scénariste de Windicta et qui est professeur d'histoire au Collège des Chaumes à Avallon. On retrouve notre sympathique tandem dans une poignée de minutes. C'est Wagon Livre sur Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Comme chaque samedi entre 11h et midi sur Radion, bien évidemment, c'est votre émission littéraire. Nous sommes en cette fin de matinée en compagnie de Ilker Caliscan et Jean-Charles Gibault qui nous présentent leurs trois albums qui constituent désormais une trilogie, trois tomes qui nous plongent dans l'histoire antique, mais aussi un petit peu le passé de la Gaule, hein, jusqu'à la mort de César, assassiné par les conspirateurs, parmi lesquels on trouve son fameux fils adoptif Brutus. Voilà. Le choix de l'Antiquité est un très bon choix parce que finalement, bon, le tome 1, je dirais, raconte essentiellement les tribus gauloises, hein, Jean-Charles, je parle sous votre contrôle, qui se fédèrent grâce autour de Vercingétorix pour affronter et bouter les troupes romaines de la Gaule. Il n'en sera rien. Donc c'est cette cuisante défaite d'Alésia qui voit Vercingétorix fait prisonnier, étranglé, hein, vae victis, hein, malheur au vaincu. Le tome 2, alors là on rentre dans les arènes sanglantes, là on renoue avec... Alors, ça nous rappelle sans doute des scènes mémorables, des péplums américains où il y avait vraiment beaucoup de production dans les années 50-60. Il y a eu Gladiateur dans les années, je ne sais plus trop, 2000.
C'est en 2000. En 2000.
Mais alors, est-ce historiquement, c'est fiable un peu exagéré. Les Américains,
disons que,
l'histoire,
voilà,
hein,
c'est
font le grand trait.
Hollywood, hein, lorsqu'il se mêle un peu d'antiquité, a toujours tendance à rajouter un peu trop. Alors, il ne faut pas regarder les costumes, parce que c'est... Bon, Ilker peut le dire mieux que moi, parce qu'il a beaucoup travaillé sur les costumes.
Oui.
Mais c'est... Bon, le film est très sympathique à regarder, mais il ne faut pas être trop attentif à la réalité historique.
Alors le tome 2 aussi, l'action se situe, nous sommes à Pompéi, hein, on est en Italie. Et puis alors le tome 3, on est dans l'Ourps, hein, c'est-à-dire la grande Rome d'un César devenu dictateur et que l'on cherche à assassiner. Il faut, voilà, il faut bien dire, hein, c'est la conspiration contre. Voilà. Et notre le fil commun, c'est le héros que vous avez fait vivre à travers ses pages et ses vignettes. Donc ce jeune roi gaulois qui a succédé à son père, ce valeureux Sertorix, dont la femme meurt assassinée, je n'en dis pas plus, et on suit son parcours assez glorieux finalement. Comment est venue l'idée du jeune Gaulois? Bon, c'est pas très compliqué, mais déjà, comment vous avez trouvé les noms là, des Gaulois? On puise dans des ouvrages d'histoire, certains.
Oui,
il y a les noms authentiques aussi, j'imagine.
C'est un peu un mélange de plein de choses, d'influences, de recherches. Bon, le suffixe Rix, hein, c'est roi, hein, c'est pour les Gaulois. Et le Cer, c'est une figure, Cerunos, c'est un dieu gaulois. Donc voilà, Cer, Sertorix, Cerunos, un mélange de tout cela et de discussions aussi entre nous. Et voilà, ça débouche sur des noms aussi qu'on a réussi à inventer, qui sonnaient bien aussi, il faut le dire.
Oui, Sertorix, donc ce jeune Gaulois que l'on suit tout au long des trois tomes, hein, de la Gaule. Alors la Gaule qu'on présente souvent comme un pays de forêt, alors que finalement... Les Gaulois avaient une civilisation plutôt agricole, Jean-Charles. Enfin, à l'époque, dans les années 50, quoi, au moment de la guerre des Gaules.
Voilà, c'est aussi l'idée. On voulait peut-être remettre en question certains a priori, certaines idées reçues, notamment sur les Gaulois, qu'on a toujours tendance à les présenter comme un peuple arriéré, avec une culture finalement très peu importante. Alors que c'est tout l'inverse. C'est un peuple de commerçants. Ils commercent avec la Grèce depuis très longtemps. Les échanges sont très nombreux. Et effectivement, ils ont déjà des cités dans lesquelles ils se regroupent. Il y a des sénats gaulois, des discussions importantes. Alors le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas laissé de traces écrites. C'est la raison pour laquelle les Romains ont tout balayé à partir de 52. Et que finalement, la culture gauloise, elle existe à travers les écrits romains. Et évidemment, il y a toujours un a priori.
Et leurs objets aussi.
Aussi,
leurs
bien
objets,
sûr.
En fer, notamment.
Ah, c'était une civilisation vraiment très intéressante. Et on a voulu aussi essayer de réhabiliter un petit peu le regard, un regard positif et bienveillant sur cette civilisation celte.
Alors, Ilker, effectivement, nous parlions du cinéma américain qui, vraisemblablement, a sans doute trahi un peu l'histoire. Mais pour dessiner... Un centurion, un gaulois avec ses bras, une femme gauloise, un druide. Bon, il y a l'imaginaire, mais il y a aussi parfois un peu des images d'Épinal, des clichés peut-être, erronés d'ailleurs, très très loin de la vérité historique. Alors c'est Jean-Charles qui corrigeait, qui amenait certaines informations, vous-même qui alliez un petit peu vous documenter. Comment avez-vous travaillé? Et est-ce que vous étiez parti sur trois albums au départ?
Oui, tout à fait. Au départ, on était parti sur trois albums, mais c'était surtout le premier qui primait, surtout. On avait fait beaucoup d'erreurs. J'avais fait beaucoup d'erreurs sur les costumes. Je m'étais donné un peu trop de liberté, parce qu'on a toujours cette image du fameux casque ailé. J'avais même rajouté des cornes par-ci par-là. Pour les braies aussi, vous avez cité les braies. J'avais, pour beaucoup de personnages, il y avait des cordes au bas du mollet pour attacher les braies. On m'a tout de suite fait comprendre que c'était, il fallait surtout pas prendre ce genre de liberté. Et le muséoparc alésien nous a beaucoup aidé avec ses équipes, justement pour ce genre de détails. Ils ont décrypté tout ce qui n'allait pas avant même qu'on se mette à la colorisation des planches. Du coup, j'ai pu rattraper toutes ces erreurs et puis petit à petit, on a enlevé tout ce qui n'allait pas.
Et alors, en lisant chacun des trois albums, je me disais, je pense à Jean-Charles qui écrit l'histoire. Alors, il faut aller à l'essentiel, puis il faut imaginer que le texte est accompagné de vignettes, de dessins. Alors, vous avez dû en passer des heures ensemble, peut-être non pas à vous chamailler, pas du tout, mais à trouver un terrain commun et d'efficacité, parce que un dessin, ça prend beaucoup de temps. Le scénario, on pourrait penser que c'est facile, Jean-Charles, alors que ça demande, à mon avis, un grand esprit de synthèse, ouais, et d'efficacité.
C'est très difficile pour la bande dessinée de partir sur un album qui tourne autour de entre 50 et 60 pages. La multiplicité des événements historiques, des lieux, des personnages, et il faut caser tout ça en 50-60 pages, c'est très difficile. Et surtout, le travail de recherche en amont est très très long. C'est vrai qu'on a envie d'avoir une certaine rigueur, de caler le plus possible à la réalité historique, donc il faut s'en donner aussi des moyens, c'est important de lire beaucoup. Mais j'adore ça, donc pour moi c'était un plaisir, mais c'est vrai que heureusement nous avons la chance de travailler ensemble. Entre deux portes, on parle pratiquement exclusivement toujours de nos albums, donc c'est une chance pour nous.
Et j'imagine, Jean-Charles, qu'en tant que professeur d'histoire, il y a ce défi à ne pas vouloir être pris à défaut sur une erreur de représentation du soldat romain. J'imagine qu'en plus, il devait y avoir un certain poids culturel et je dirais presque éthique sur vos épaules, enseignant l'histoire.
C'est un défi, effectivement. On n'a pas envie de décevoir.
Hilker, professeur d'anglais, prenez moins de risques.
Oui, oui, mais c'est vrai qu'il a aussi ce souci de la rigueur. Et il ne faut pas oublier que, encore une fois, notamment pour les tenues militaires, les tenues que nous présentons, c'est des tenues de la République romaine. Ce n'est pas du tout les mêmes que celles de l'Empire romain, que l'on voit souvent, d'ailleurs, à défaut dans les films. Et donc, c'est vrai que ça nous a demandé beaucoup, beaucoup de travail, de discussion. Et je pense qu'on peut dire que le résultat est à la hauteur.
Alors, il faut dire aussi, Hilker, la difficulté, c'est de représenter des types de personnages. Hein, le cruel, le fourbe, le balafré. Alors, il y a des dodus, il y a des maigres, il y a de beaux hommes, il y a des belles femmes. Il y a des scènes de festin qui sont notamment, je crois que c'est avant que les gladiateurs aillent au combat. Il y a ce grand festin.
Oui.
Et puis, alors, un épisode assez remarquable, c'est les fameuses Lupercales.
Oui.
Qui peut expliquer ce que sont ces Lupercales, ces fêtes qui étaient grandioses? Parce que finalement, il y a un côté gigantesque et énorme de dans l'histoire romaine, quelque chose d'immense.
Toujours chez les Romains, ils ne font jamais les choses à moitié.
En excès, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'excès, toujours.
C'est
Lupercales.
C'est vrai que, alors, pour le coup, on a essayé à chaque fois, notamment dans le tome 2, donc les Lupercales, le tome 3, les Ides de Mars, c'est toujours des moments importants. Le calendrier romain est toujours comme ça, il y a toujours des moments très importants qui rythment l'année. Et c'est une période, on pourrait dire, de purification. Il faut se laver un petit peu de toutes les actions passées. Donc, il y a des défilés comme ça dans les rues qui sont marqués par des prêtres, véritablement, avec des costumes de bouc. Enfin, c'est quelque chose qui devait quand même être relativement impressionnant. Et quand j'ai découvert cette fête de Lupercales, j'ai tout de suite pensé au dessin d'Hilker. J'ai imaginé à quoi ça pouvait ressembler. Et je me suis dit qu'il fallait absolument le présenter dans la bande dessinée. Et ces fêtes qui lançaient la saison aussi du printemps qui arrivait, hein, à partir du mois de mars, c'était aussi l'occasion de renouer avec les spectacles de gladiateurs. Donc c'était parfait pour notre scénario.
Et là, par exemple, je prends dans le tome 2, justement, la grande page où l'on voit donc ce prêtre, hein, pardonnez-moi Jean-Charles, là, les bras ouverts. Donc,
c'est ça, oui.
Avec, encorné, bon, bien sûr, il y a une part d'imaginaire, et puis une lune à l'arrière, et puis on voit un temple, une population réunie et qui, effectivement, vient participer. Là, c'est vous qui ordonnez un petit peu, ou c'est Hilker qui a totale liberté, ou il dessine aussi un peu sur des conseils, des suggestions, des mini-plans que vous
alors
lui faites
voilà,
de manière
scientifique. Effectivement, c'est une bonne question. Moi, je prépare déjà un petit, on va dire, un découpage initial avec... je sais que nous, on aime bien aussi, dans nos bandes dessinées, laisser très régulièrement des planches entières de dessin pour vraiment que Hilker puisse donner libre cours à son talent. Et donc, je présente un pré-découpage. Et ensuite, Hilker, à partir de cela, il va organiser, lui, en fonction de ce qu'il a envie de montrer, de présenter. Enfin, je te laisse peut-être expliquer mieux que moi.
C'est ça. Ce que j'aime beaucoup, moi, en dessinant, c'est cette part d'un peu d'improvisation, si vous voulez. Jean-Charles me donne l'idée principale. J'improvise au moment où je vais attaquer la planche, si vous voulez, j'ai pratiquement pas la moindre idée de ce qui va se passer. J'ai une idée vague, vraiment très très floue, et au fur et à mesure que quelque chose se construit, je le propose à Jean-Charles. Est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que je suis complètement à côté? Et c'est souvent que ça arrive que nos deux idées tout allait dans le même sens, en fait. On a toujours été d'accord, si vous voulez, quoi. Et je me sens privilégié d'avoir pu faire ces grandes pages uniques avec autant de détails, parce que sur une page, je peux raconter beaucoup de choses qu'on n'a pas pu mettre dans le texte aussi.
Oui. Ouais. Alors, par exemple, là, on voit une créature, une femme, corps de rêve, là, et l'homme qui est soumis à quatre pattes, et elle déverse du vin sur son visage. Il y a effectivement un certain érotisme. Ah, c'est une civilisation du plaisir. On s'amuse avec excès. Bon, les Gaulois aussi buvaient de la cervoise, les Romains plutôt du vin. Mais
coupé à l'eau toujours.
Oui, c'est vrai, parce que oui, c'est vrai que c'était un vin extrêmement puissant.
C'est le signe des barbares pour eux, hein. Comme les Grecs d'ailleurs.
Les scènes de combat, là aussi, où on voit la foule, l'arrière-plan, le premier plan, il faut aussi gérer le dessin. Enfin, ça prend combien de temps, par exemple, Ilker, une pleine page de l'album, c'est-à-dire l'équivalent d'un format A4 pour que nos auditrices et auditeurs comprennent.
C'est à peu près 3 journées de travail.
Ah oui.
Oui, mais c'est vrai que nous, parce que nous avons un autre travail à côté, je devais m'organiser différemment. Alors du coup, pour une planche, je travaillais à peu près une semaine. Une semaine entre le moment où je crée la première esquisse en tout petit et le moment où tout est colorisé. Ça prend une semaine environ, quoi.
Alors nous, on va faire un petit intermède musical. On se retrouve dans quelques minutes avec vous deux. Je rappelle Ilker Caliscan et Jean-Charles Gibault, les auteurs de Windicta, une bande dessinée que l'on trouve dans un certain nombre de points de vente, peut-être plus dans Lyon encore que dans les autres départements de la Bourgogne.
Oui, c'est vrai. Après, on a aussi du côté de la Nièvre aussi, du côté de... Enfin, dans tous les départements bourguignons, les francs-comtois, j'espère aussi.
Ah oui, tout à fait. Et je rappelle que Windicta, on peut aussi la commander sur le site de votre maison d'édition, hein, YIL, YIL, et on peut bronzer utile, intelligent et se divertir aux côtés de Sertorix, votre jeune roi gaulois dont le parcours est loin d'être anodin. On se retrouve dans une poignée de minutes, c'est Wagon Livre sur Radio et nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous sommes avec nos deux invités, Ilker Caliscan, illustrateur, et Jean-Charles Gibault, scénariste des 3 albums Windicta, une belle trilogie qui nous ramène, j'allais dire, auprès de nos ancêtres les Gaulois, un certain temps, dans le tome 1, la bataille d'Alésia, fascinante bataille d'Alésia, été 52 avant Jésus-Christ. Le tome 2, nous sommes dans l'univers des gladiateurs et nous sommes à Pompéi. Et puis le tome 3, on est dans la grande Rome de César, les Ides de Mars d'ailleurs, date à laquelle César sera, je crois, poignardé 23 coups.
23
hein,
coups, oui.
Merci
oui.
Jean-Charles pour ces précisions. Alors, l'illustrateur Ilker Cadiscan, comment travaillez-vous, Ilker? De quelle manière? Avec quels encres, quel feutre, quel crayon? Pardonnez-moi mon ignorance, mais c'est l'occasion de nous donner quelques informations.
Alors, il y a beaucoup d'étapes, même pour une seule planche. Je commence toujours déjà par des petites esquisses de chaque vignette. Une fois que l'esquisse me plaît, je passe à la vignette suivante. Et au bout d'un moment, je crée justement cette espèce de vie dans chaque planche, l'enchaînement des vignettes pour qu'il se crée une ambiance. Bon. Une fois que ce crayonné est fait, je l'applique à la planche qui fait à peu près c'est 2-3 fois la taille d'une planche qu'on trouve dans le livre. Une fois que le crayonné est fait, je passe tout ça à l'encre, au stylo un peu indélébile. Et à partir de ce moment-là, je commence l'ancrage noir et blanc. Et tout à la fin, le plaisir, la couleur. Et tout ça, oui, c'est des étapes que je dois respecter dans ce sens-là, parce que je ne sais pas faire autrement.
Alors, voilà. C'est beaucoup de temps entre le métier, la vie familiale.
C'est ça.
C'est un travail de longue haleine, finalement.
Ah bah oui,
et puis, il faut se retrouver, il faut être en accord, en harmonie.
C'est ça. Et puis, c'est les horaires que je choisis. Enfin, j'ai pas vraiment le choix, mais c'est toujours très, très tard la nuit. Donc surtout le premier tome qui était très très long, je commençais rarement avant 21h, 22h pour finir autour de 2-3h, 4h du matin parfois. Je ne le fais plus aujourd'hui. D'ailleurs,
un travail de galérien.
Exactement.
Alors.
Seul la nuit, c'est un moment que j'adore.
Oui.
D'ailleurs, j'ai perdu quelques points à mes yeux. C'est pour ça que vous me voyez avec des lunettes maintenant. Voilà, je sais que c'est dû à ça avec les lumières artificielles la nuit. Voilà.
D'accord. Windicta, 3 tomes. Vae Victis, Le vol noir du corbeau et le dernier tome paru en ce printemps 2021, Les Ides de Mars, avec notre historien préféré Jean-Charles Gibault. Revenons
Merci
sur
Yannick.
Cette bataille d'Alésia, Jean-Charles. Alors, globalement, les Bourguignons, je pense, savent que Alésia, le site d'Alésia, c'est le site de Alice Saint-Reine, donc on est dans l'Aussois, non loin de Montbard. Mais est-ce que ce site est définitivement reconnu, j'allais dire, comme le site qui a réellement porté cette bataille qui a opposé les troupes des Gaulois de Vercingétorix contre celles du glorieux et fin stratège qui était César?
Alors la majorité des archéologues et des historiens s'accordent pour dire que le site effectivement est bourguignon, mais le doute subsiste puisque Ilker peut en témoigner lors des salons, des rencontres avec le public, avec les lecteurs. La majorité des questions que l'on nous pose sur Alésia, c'est 9 fois sur 10, est-ce que finalement ce ne serait pas en Franche-Comté sur le site de Chaudet-Crotenay? Alors des journalistes, des historiens comme Franck Ferrand par exemple, qui sont représentent aussi un courant, notamment à la radio, à la télévision, sont sur cette opinion-là et reposent sur des données archéologiques aussi. Alors, on dit souvent, j'utilise souvent une pirouette pour m'en sortir. Je suis originaire de Franche-Comté, je vis actuellement en Bourgogne. Donc, pour moi, finalement, que le site soit franc-comtois ou bourguignon, il fait partie aujourd'hui de la même région. Et nous ne sommes pas archéologues, c'est vrai, nous n'avons pas les compétences non plus pour l'affirmer. Mais il est vrai que la majorité, le consensus aujourd'hui, se tourne autour du site bourguignon, bien sûr.
Alors, à l'aise. Il y a un village qui s'appelle Alèze, à 25 km au sud de Besançon, qui un temps a revendiqué être le lieu de la bataille d'Alésia. Mais finalement, c'est un peu Napoléon III qui a mis tout le monde d'accord.
Ah, c'est lui. D'ailleurs, il a ses traits figure sur la statue de Vercingétorix. Il s'incarne même lui-même dans cette statue. Et c'est vrai que les fouilles organisées par Napoléon III ont définitivement fait pencher la balance sur ce site.
Il faut dire aussi que Napoléon III a donné, donc le neveu de notre bien-aimé
empereur Napoléon. On y revient toujours.
Absolument. Napoléon III a vraiment donné un gros coup de pouce à l'archéologie française en faisant presque une science nationale durant son, son, son règne, enfin sa présidence.
Oui, alors les Napoléon et Napoléon III un peu plus tard partageaient aussi une passion pour Jules César, donc certainement effectivement pour l'Antiquité en général. Et c'est vrai qu'il a donné un coup de pouce très important sur la science de l'archéologie. On peut lui reconnaître cela.
Alors Jean-Charles Gibault, concernant la bataille d'Alésia, quels sont les rapports de force entre Gaulois et Romains? Quel bilan? Et finalement, pourquoi les Gaulois sortent-ils perdants de cette épreuve qui a duré, enfin, c'est un siège, mais ça a duré 2 mois, je crois.
Oui, oui, autour de 2 mois. Alors, la campagne de César en Gaule démarre bien longtemps avant. Hein. C'est une campagne qui dure 8 ans, qui est extrêmement longue. César est appelé d'ailleurs par les tribus gauloises qui demandent son secours au départ. Et finalement, la guerre reprend dans les 2 dernières années avec l'essor de Vercingétorix, hein, qui va mettre en avant cette armée gauloise. Il va essayer de fédérer les tribus, puisqu'on parle de la Gaule, mais la Gaule n'existe pas. Oui. C'est une mosaïque de tribus gauloises, on devrait plutôt le dire ainsi. Et donc, il se retrouve piégé dans Alésia. Enfin, c'est un piège volontaire, hein, de la part de Vercingétorix. Et César, comme à son habitude, hein, il va, comme il l'a fait dans de nombreuses autres cités, mettre en place un siège, ce qu'on appelle la contrevallation, alors une ligne de défense contre la ville d'Alésia. Et comme César avait de nombreux espions autour de lui, il savait qu'une armée de secours se préparait, et il va donc mettre en place une circonvallation autour de 20 km autour d'Alésia. Et il attend de pied ferme, justement, l'armée de secours, qui se constitue à Bibracte avec 4 grands chefs, de 3 tribus différentes. Je ne vais pas entrer dans le détail, il faut voir dans la bande dessinée. Mais cette coalition de plusieurs chefs, de plusieurs têtes, va finalement se disperser dans les difficultés, dans les différences. Et finalement, la figure d'un seul chef n'existe pas. Et aujourd'hui, on sait que les Éduins, les Bourguignons, hein, on devrait dire, n'ont pas combattu à Alésia. Ils sont restés.
Oui, ils ont traîné un peu les pieds, en fait.
Ils sont venus et ils ont attendu de voir un petit peu, comme dirait César, le sort en est jeté. Ils ont attendu et ils ont vu que finalement, Vercassivellaunus, le cousin de Vercingétorix, prend la tête de ses armées. Il y a 3 combats très très violents autour d'Alésia. Les fortifications de César tiennent. Et malgré le nombre considérable de troupes gauloises, ils sont plus de 250 000. Les troupes de secours sont gigantesques. Ça devait représenter quelque chose d'énorme. Et les pièges romains, le génie de César vont faire la différence. Il va mouiller la chemise, César. Hein, il y va parce qu'à un moment donné, si le camp nord qui est attaqué en dernier est sur le point de céder, il est obligé lui-même de se rendre sur le champ de bataille avec sa tenue pourpre. Et d'ailleurs, il dira lui-même qu'à la vue de cette tenue, ses troupes ont repris un peu le moral. Bon, c'est lui qui le dit, hein, mais on ne peut que le croire puisque lui seul a écrit sur cette bataille.
Alors, c'est vrai qu'il faut rappeler qu'il y a ce texte de la guerre des Gaules de César, dont une grande partie a été écrite à Bibracte. Alors, Bibracte, il faut le dire aussi, c'est en Bourgogne, on est dans la Nièvre. Hein.
C'est cela. Alors, d'ailleurs, l'armée de secours, je l'ai dit tout à l'heure, se rejoint à Bibracte, c'est une ville très très importante.
Hein. Alors, c'est une cité quoi, gallo-romaine ou gauloise?
Alors, c'est une cité gauloise, c'est la capitale des Éduins, hein, qui est, alors, parmi les peuples gaulois, l'un des plus puissants. C'est un peuple allié de Rome au début de la guerre des Gaules. Ils vont, à partir de Gergovie, revenir dans le camp gaulois, j'ai envie de dire, de Vercingétorix. Puis, finalement, à Alésia, leur. Non-combativité, pour ne pas dire plus, pour être gentil, va évidemment provoquer la défaite gauloise. Et notre héros, lui, fait partie de ces troupes qui vont partir à l'assaut des Romains à Alésia. Et on avait envie de montrer aussi qu'est-ce qu'il advient de ces centaines de milliers de soldats qui vont être faits prisonniers par les Romains. La plupart d'entre eux vont devenir esclaves et parfois vont, comme notre héros, partir dans des ludus, c'est-à-dire des écoles de gladiateurs. Et n'oublions pas que le bilan de cette guerre des Gaules, hein, c'est pratiquement 1 million de morts chez les Gaulois, sans compter évidemment le nombre de prisonniers et de blessés qui est considérable.
Oui, c'est le Romain est un soldat quand même cruel, quoi. C'est le génocide joyeux, enfin comme un peu l'époque des des combats au Moyen-Âge. On parlait de génocide joyeux dans les littératures. On fend en deux un soldat, mais ça c'est une image épique, c'est une hyperbole littéraire. Mais
surtout, le soldat romain est très discipliné. Donc le soldat romain, il
n'est pas le cas du Gaulois en fait. C'est un peu notre vieux fond français.
C'est vrai, on retrouve l'indiscipline, le refus d'obéir à un chef si ce n'est pas celui de notre tribu. On veut montrer qu'on est vaillant au combat. Il faut sortir du rang et faire le maximum de victimes chez l'adversaire. Alors que les Romains, leur organisation est extrêmement sévère. On ne sort pas du rang, on reste dans le rang et on obéit évidemment au chef. César est le chef évidemment de ces légions et personne ne peut venir lui enlever son statut. C'est véritablement le généralissime.
Alors avec la belle, j'allais dire le beau temps, la belle saison qui approche, non seulement on se procure les trois bandes dessinées, les trois tomes de Windicta, tome 1, Vae Victis, tome 2, Le vol noir du corbeau et tome 3, Les Ides de Mars, et on va en Bourgogne, notamment à Alise Sainte-Reine, on va au musée au parc d'Alésia, et puis je voudrais quand même rappeler...
Et à Bibracte.
Et n'oublions pas qu'à Alise Sainte-Reine... est né un bourguignon connu, Jean-Charles, qui a été maire de Dijon.
Ah oui.
Le chanoine Kir.
Le chanoine Kir, oui. Effectivement.
Et il paraît que Racine allait boire les eaux de source de Alise Sainte-Reine. Alors, il y a aussi tout le culte chrétien autour de Alise Sainte-Reine. Je voudrais que nous arrêtions sur notamment le tome 2, qui est impressionnant parce qu'on est à Pompéi et surtout on est dans les arènes, on est dans... Alors c'est pas les jeux du cirque, puisque c'est du combat de gladiateurs, épisode absolument magnifique, effrayant, c'est cet ours qui obéit d'ailleurs au gladiateur et qui sort affronter notre super petit Gaulois qui se retrouve là au milieu. C'est pareil aussi, il y a eu Astérix et Obélix qui ont fait peut-être aussi beaucoup de tort à l'image des Gaulois.
Ils ont fait du tort, mais en même temps, on est tombé comme Obélix dans la potion magique de la BD grâce à Obélix, donc on peut pas renier cela non plus.
Alors, Ilker, là, pour dessiner des gladiateurs, là, on est obligé de respecter le matériel, les tridents, pour dessiner un rétière, un mirmillon, etc.
Bien sûr, et y compris même...
C'est contraignant, j'imagine.
C'est très contraignant. Et aussi, il y avait certains types de gladiateurs qui n'existaient pas au moment de la République. Il a fallu aussi faire attention à cela. Là, les rétières, les mirmillons et les traces existaient. Donc, on s'est beaucoup concentré sur ces trois types de gladiateurs. Si on regarde, il n'y a pas beaucoup d'autres. Mais même là encore, il fallait faire attention aux boucliers, la forme des boucliers, aux protections du bras, la forme des armes.
Oui.
Encore une erreur qu'on était amené à faire, si on n'avait pas été vigilant, c'est la taille des armes. C'est-à-dire qu'on a l'impression, enfin moi, l'image que j'avais du gladiateur, c'était un homme qui se battait avec une épée. Et non, c'est quasiment des couteaux, quoi.
Oui, des très courts.
Très courts, oui,
en
oui.
Fait,
donc
hein.
c'est,
pour le combat du corps à corps, c'est vraiment, c'est, voilà, c'est dédié au corps à corps.
D'ailleurs, si on regarde le trace, il a une espèce de couteau qui est complètement tordu, on va dire. Et pour faire du mal avec ce genre de couteau, il faut être très proche de l'adversaire.
Oui, une lame recourbée.
Oui,
c'est et il porte le trace, donc c'est un type de gladiateur, le trace, T-H-R-A-C-E. Ouais.
L'ennemi traditionnel du mirmillon.
Alors le mirmillon, lui, il a un long bouclier rectangulaire et il a un casque à large bord. Et justement, il y a tous à la fois, c'est intéressant parce qu'il y a le glossaire au début de l'album et puis il y a les représentations. Alors je trouve que ce soit pour le jeune public ou même un public plus âgé, enfin ce qui est mon cas, j'avais quelques connaissances quand même ayant été latiniste, mais on oublie puis on ne sait pas tout. Mais c'était l'occasion de redécouvrir des termes latins, des termes de la civilisation latine ou gauloise. Et c'est extrêmement dépaysant et en plus c'est très réussi et en plus je suis très heureux de vous avoir tous les deux dans l'émission
Wagon Livre. Très gentil.
Donc je voudrais maintenant encourager nos auditrices et auditeurs à eux aussi cet été aller revisiter un peu notre histoire, la Gaule, Alésia, Pompéi, où là aussi, heureusement que la terre tremble, que le Vésuve permet à Sertorix de s'échapper pour ensuite regagner Rome, où là encore d'autres missions l'attendent, notamment autour du... avec le fils adoptif de César,
César est présent finalement dans tous les albums. La toile de fond de cette trilogie, c'est aussi la guerre des Gaules et les guerres civiles.
Alors la couverture du tome 3, bon, on a un César pétrifié, un peu comme s'il avait été médusé, quoi. Et puis à l'arrière, effectivement, le sang qui se glisse dans les rainures de cette... de ce César de pierre, quoi. Enfin, c'est... Et puis le tome 2, là on est sur une scène de combat. Alors le corbeau est omniprésent,
oui,
beaucoup avec le druide d'ailleurs.
C'est le petit lien, exactement, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que le druide est présent aussi sur les trois tomes. Parfois il est juste suggéré, c'est l'œil qui regarde un petit peu, qui surveille Sertorix de loin. Voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est, effectivement il est là, et c'est lui le corbeau.
Oui, c'est une sorte de leitmotiv.
Exactement.
Visuel qui accompagne le héros tout au long de son périple. Et bon, son histoire est finie désormais. Alors,
normalement.
Mais vous avez décidé de renouveler cette aventure, j'allais dire bédéistique, si je puis me permettre.
Oui.
Mais cette fois-ci, alors, vous frappez à une autre porte de l'histoire. Plus proche de nous dans le temps.
Beaucoup plus proche.
Qui nous explique le projet qui va s'engager dans les mois à venir.
Alors ce qu'on aimerait justement, c'est le nouveau projet concernerait la période de la Deuxième Guerre mondiale.
Toujours en Bourgogne.
Toujours en Bourgogne, évidemment, et beaucoup plus proche de chez moi, j'ai envie de dire, parce qu'il s'agit d'une histoire qui se passe dans le Morvan. Voilà. Et la résistance dans le Morvan face à l'ennemi d'occupation. Et les différents maquis qui se sont mis en place dans le Morvan seront au cœur de ce que nous allons faire. Voilà.
Et en association, Jean-Charles, avec un partenaire fort, reconnu, institutionnel même.
Oui, voilà, c'est le musée de la Résistance qui va participer avec nous véritablement sur la mise en place de cette bande dessinée qui retracera la vie dans un maquis du Morvan au cours de cette période de l'occupation, particulièrement à partir du printemps 1944 où là, véritablement, les maquis commencent à entrer véritablement dans l'action. Et c'est un projet qui nous tient très à cœur. On a vraiment envie de faire quelque chose de bien. Et l'idée, c'est, si tout se passe bien, de sortir cette bande dessinée en 2023, au moment des 40 ans du Musée de la Résistance qui a été inauguré par François Mitterrand en 1983.
Alors, album unique, là.
L'astre,
oui, pas de trilogie.
Un album unique avec certainement une partie explicative à la fin, un cahier pédagogique, on pourrait dire, pour entrer un peu plus dans le détail de certaines expressions, certains éléments, et surtout des archives que j'ai eu la chance de découvrir, puisque j'ai eu la chance aussi d'avoir être en charge du service éducatif du Musée de la Résistance. J'ai eu accès aux archives, j'ai découvert des pièces d'ailleurs que j'ai présentées à Ilker, et j'aimerais vraiment les faire apparaître dans ce cahier pédagogique, parce que c'est des pièces uniques et rares. Il faudrait que les gens puissent les découvrir, tout simplement.
Donc la prochaine bande dessinée, pas besoin de trouver un éditeur, là c'est le musée de la Résistance,
voilà,
du parc du Morvan qui... Je prendra en charge l'organisation éditoriale.
Voilà,
de
je
la
me permets
dessinée.
De parler au nom d'Aurore, qui est la directrice du musée, mais normalement, on se dirige sur cette formule après, peut-être d'ici 2023.
Alors, c'est une commande ou c'est vous qui avez proposé vos services?
Ilker, je te laisse.
Moi, j'avoue que c'est le maquis dont on va parler précisément m'attire depuis ma présence dans la Bourgogne. Donc, c'était vraiment un hasard qu'on rencontre.
Alors, le nom
Aurore
du maquis,
aussi.
Peut-être.
Le maquis Camille, on dévoile le maquis
Camille.
Ça a été très, très difficile de choisir.
Oui, parce qu'alors là aussi, Jean-Charles, on en a parlé la dernière fois à l'issue de l'émission sur Napoléon, c'est qu'il y a eu beaucoup de groupes de résistants, beaucoup de groupes de maquisards. Alors, évidemment, mettre en avant le maquis Camille, c'est pas forcément faire de l'ombre aux autres, mais on ne peut pas satisfaire tout le monde.
Et il y a un petit détail très cocasse aussi, on s'est rendu compte que le symbole du maquis Camille est un Gaulois.
Ah oui.
Voilà, donc c'était
peut-être
parfait
peut-être
pour
un signe. Hein, pour
on a pris ça comme un signe.
Ah oui, voilà. Effectivement, c'était là. Là, c'est tout à fait surprenant. Je dirais la boucle est bouclée.
Et
c'est la continuation,
exactement.
En tout cas,
c'est
d'un
ça.
Beau projet qui reste inscrit dans l'histoire de la Bourgogne, son patrimoine. et puis deux enseignants passionnés, très complices, qui se comprennent, qui se complètent.
Exactement.
Et qui ont eu la gentillesse de venir aujourd'hui.
Merci à vous d'ailleurs, Yannick, de mettre en avant la bande dessinée dans votre émission Wagon Livre.
C'est pas souvent.
Voilà, justement, nous vous remercions beaucoup parce que c'est rare d'avoir une émission qui consacre un temps aussi long à la bande dessinée. Donc on vous remercie beaucoup.
Eh bien, j'accepte ces remerciements et je vous adresse les miens. J'ai été très heureux de vous avoir tous les deux aujourd'hui devant le micro. D'ailleurs, le temps passe très vite. Il faut conclure et annoncer l'émission de la semaine prochaine. Je recommande donc bien sûr les trois tomes de Windicta. Le tome 1, Vae Victis. Le tome 2, Le vol noir du corbeau. Ami, entendu, bien sûr.
Encore un signe.
Bien évidemment. Et puis le tome 3, Les Ides de Mars. Soit on se renseigne auprès de son libraire, ou alors, via Internet, on se rend sur le site des éditions YIL, Y-I-L. Cette émission se retrouve disponible à l'écoute sur yannickpetit.fr et nous nous retrouvons samedi prochain, toujours à 11h, sur Radion, bien sûr, avec un nouvel invité. C'est une jeune poétesse qui sera en notre compagnie pour nous présenter son recueil de haïkus, un recueil de textes intitulé « Haïku Zen et autres poésies sauvages » paru le 30 avril dernier. J'adore le nom de la maison d'édition. Cela s'appelle « L'âme du rasoir ». Alors, c'est un recueil de poèmes sauvages, de haïkus, de pensées, de jeux de mots. Et c'est au programme de Wagon Livre, samedi 19 juin à 11h sur Radion. Ilker, Jean-Charles, bon congé de fin de semaine à vous deux.
Merci.
Bel été créatif. Bon, encore quelques semaines avec les collégiens. Et puis, bel été à vous. Et surtout, beaucoup de succès, de belles rencontres auprès de vos lectrices et lecteurs dans les salons, car vous allez en faire. Vous serez à Blanzy, vous serez à Saulieu et il y en a sans doute beaucoup d'autres. Livre en vigne, j'aimerais bien.
Ah, ce serait
à suivre.
Un plaisir. Beau programme.
Bon congé à nos auditrices et auditeurs qui ont eu la gentillesse et la fidélité de nous suivre jusqu'au bout. Au revoir et à la semaine prochaine.